protection privée. Bonsoir, nous consacrons cette émission à la FEMIS, la grande école du cinéma en France, et nous recevons pour cela, pour en parler, Marc Nicolas, qui est le directeur de l'institution. Le président, c'est Patrice Chéroux, mais il vient d'être nommé président.
Il va l'être.
Il va l'être, donc il faut qu'il étudie de plus près l'institution. Et puis, Carole Desbarras, qui est la directrice des études. Carole Desbarras, je crois que ça fait 10 ans que vous êtes à la FEMIS depuis 1996, et Marc Nicolas,
c'est 4 ans et demi.
5 ans, on va dire 5 ans pour un compte rond. Donc, la FEMIS, Fondation européenne des métiers de l'image et du son, qui a été officiellement annoncée au Palais de Tokyo. Elle devait d'ailleurs se trouver au Palais de Tokyo, mais aujourd'hui, elle est magnifiquement installée dans les anciens studios de Pathé, rue Francoeur, dans le 19e. 18e, pardon. Et d'ailleurs là où Bresson, a tourné Les Dames du Bois de Boulogne. Voilà, c'est donc dans cet endroit que les étudiants se retrouvent. Alors, la Cinémathèque française vient de consacrer une rétrospective jusqu'au 18 septembre, à ses 20 ans de la FEMIS, en montrant des films de 20 étudiants qui sont devenus connus, enfin certains plus que d'autres, mais en tout cas des gens comme Emmanuel Berco, comme Emmanuel Mouret, comme Manuel Pradal, comme Noémie Lvovsky, François Ozon, Orso Miret, etc. Bon, certains d'entre eux d'ailleurs sont venus à ce micro parler de leur premier, de leur deuxième ou de leur troisième film, parce que certains sont presque déjà des gens qui sont, ben, François Ozon en particulier, évidemment, a toute une filmographie derrière lui. Donc, ce qui prouve que la FEMIS produit des cinéastes. Mais alors, on va parler de beaucoup de choses dans cette émission, en particulier le fait, je crois qu'il faut dire tout de suite, c'est que la FEMIS n'est pas seulement une école qui forme des réalisateurs. Au contraire, les réalisateurs sont quasiment minoritaires dans la FEMIS. Même s'ils sont en masse, s'il y a une masse de candidats qui veulent être réalisateurs. Marc Nicolas.
Mais oui, aujourd'hui, comme vous le disiez à l'instant, ils sont minoritaires arithmétiquement, puisqu'ils sont 6 par an, alors que nous avons 50 élèves par an aujourd'hui, dans 10 métiers. Les effectifs varient entre 2 et 6 élèves par métier, par département. Et nous formons à tous les autres métiers de la création, ou presque tous, hein, scénaristes, ingénieurs du son, décorateurs, monteurs, etc. Et puis depuis 3 ans maintenant aussi, formons des distributeurs et des exploitants de salles de cinéma. Donc ils sont minoritaires. Alors évidemment, ce sont eux qui sont les plus visibles, puisque en France, et pas qu'en France d'ailleurs, on désigne les films par leurs réalisateurs, mais pour nous, ils sont tous d'égale importance, évidemment, pendant leur formation. Et pour aller dans le sens qui était celui de votre présentation, je dirais que on trouve dans tous les métiers des anciens élèves qui ont un niveau de réussite, si on peut dire, égal à tous ceux que vous avez cités, c'est-à-dire que nous avons des ingénieurs du son qui ont obtenu des Césars, nous avons même dans nos jeunes élèves, exploitants, distributeurs, des gens qui aujourd'hui sont vraiment au travail, des scénaristes, des producteurs. Enfin, on pourrait multiplier les exemples dans tous les domaines.
Alors, Carole Desbarras, on va faire un peu l'organigramme. D'abord, il y a tout de même d'abord le concours d'entrée. Les gens se présentent dans toutes ces catégories. Je crois qu'il y a 7 départements, plus ceux qui ont été, qui se sont greffés là-dessus, c'est-à-dire script, distribution, exploitation. Alors comment se passe? D'abord, vous avez une quantité considérable. Il y a, je crois, nombre d'inscrits, je crois plus de 1000.
Oui,
les gens qui veulent rentrer à la FEMIS. Alors comment on trie?
C'est très difficile. On a entre 1000 et 1200 candidats chaque année. Nous avons un concours qui comporte 3 parties. Nous venons d'aligner l'ensemble des candidats sur la première partie. Ça nous semblait important que quelqu'un qui veut être exploitant de salle passe la même épreuve au démarrage que quelqu'un qui va être réalisateur, puisque quand même, il va le recevoir ensuite dans sa salle. Il faut quand même qu'il y ait cette culture du cinéma qui soit présente. Donc, il y a des épreuves communes. En première partie, il y a donc une analyse de film, un extrait de film qui est projeté dans une salle. C'est d'ailleurs très impressionnant. Vous avez 1000 candidats qui sont là en train d'attendre fébrilement quel est le film classique qu'on va leur envoyer.
On leur montre tout le film ou une séquence?
Non, on leur montre une séquence. Cette année, c'était donc le film d'Ang Lee, Tigres et Dragons, qui, je pense, a suscité des intérêts divers et justement des surprises, parce qu'ils attendaient peut-être un Mizoguchi et ils ont eu autre chose. Donc ils ont ce moment-là qui est quand même important, dans lequel on précise bien qu'on ne veut pas le jeu des 1000 francs, on n'est pas en train de leur demander d'étaler une connaissance extrêmement approfondie de tous les figurants, mais plutôt un sens et une perception du morceau de film qu'ils voient. On leur donne des éléments qui leur permettent de le comprendre. Il y a aussi, pour la plupart d'entre eux, un dossier à remettre. Ils le remettent ce jour-là. Ce dossier, il faut le comprendre comme un dossier presque de repérage et de préparation d'un film. Ce n'est pas un scénario. C'est un dossier qui serait ce qui serait sur la table d'un cinéaste qui irait ensuite partir à la recherche d'un montage de film. Et donc, ce dossier se fait à partir d'un des trois thèmes qui sont proposés chaque année. C'est un mot, chaque fois, qui peut être aussi différent que le pli, le cachet, le blanc, le reste.
Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire autour de ces mots? J'ai vu dans votre documentation papier, par exemple, gourmandise, frontière. Alors, qu'est-ce qu'ils font avec ces mots?
Vous qui êtes un grand spécialiste du cinéma américain, vous imaginez bien ce que, par exemple, on peut penser autour de la frontière. Mais ils peuvent aussi penser tout à fait à la frontière pour un immigré. Ils peuvent penser la frontière, si je prends cet exemple-là, sous tous les angles que la polysémie du mot permet. Et c'est bien l'intérêt de ce qu'on propose, c'est de leur ouvrir un champ, de manière à ce qu'ils aillent dans une recherche qui soit personnelle, qui ne soit surtout pas une compilation, et qui permette au jury, et en particulier à la double correction, aux double correcteurs qui sont là, de juger de qualité, de rigueur, d'originalité. Donc effectivement, il peut y avoir... Il y a du texte, il peut y avoir des photos, il peut y avoir, voire parfois des éléments sonores, mais l'idée c'est comment vont-ils aborder, avec l'idée de faire un film, le thème qu'ils auraient proposé. Et on est assez ouvert dans ce sens-là.
On est très ouvert.
Oui. Marc-Nicolas.
Oui, non, je veux enchaîner, parce que j'ai toujours la crainte que des futurs candidats nous écoutent et interprètent nos propos, puisqu'on n'a pas de programme à ce concours, vous le savez. On n'a pas de programme, on n'a pas de prépa. Et on se distingue en ça de toutes les écoles. Donc...
Et pas gérance de l'IDEC, qui était l'Institut aux études cinématographiques, qui a précédé la FEMIS, qui était la grande école de l'après-guerre, où il y avait des classes préparatoires, au lycée notamment. Voltaire, voilà.
Donc je suis toujours inquiet, parce que je sais que nos propos sur ces épreuves sont décryptés de manière extrêmement, maniaque, par les futurs candidats. Donc je ne voudrais pas qu'ils mésinterprètent ce que vient de dire Carole et qui est juste par ailleurs, c'est-à-dire que quand elle dit il s'agit d'un dossier préparatoire à un film, c'est plus large que ça, c'est-à-dire qu'on n'attend vraiment pas d'un scénario, ça c'est clair, c'est écrit noir sur blanc, donc la tentation de la fiction est toujours là, on la repousse. C'est plutôt un dossier d'enquête, à partir de ce mot qui est effectivement, qu'on essaye de choisir comme étant polysémique. Mais c'est pas nécessairement pour aller vers un film, c'est-à-dire que c'est plus ouvert que ça encore. C'est une manière de les solliciter dans leur capacité créative, dans tous les sens, et de nous montrer comment ils sont capables, autour d'un mot, d'aller chercher dans le monde réel, et c'est ça qui est important, des choses qui font sens, qui non pas qu'ils l'illustrent, parce qu'il s'agit pas non plus d'illustrer le terme, mais essayer de bâtir autour de ça une sorte de micro-problématique, et qu'ils exposent aux lecteurs.
Non, mais je voudrais savoir, Marc-Nicolas, dans la mesure où il y a 510 candidats qui ont voulu être réalisateurs, qui ont choisi l'option réalisation, c'est-à-dire presque 50% des inscrits au concours, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres qui, en fait, visent à faire de la réalisation, mais qui se disent « j'ai plus de chances d'être reçu à la FEMIS, dans le secteur son, par exemple, où il y aura beaucoup moins de candidats, mais une fois que je serai dans l'école, petit à petit, je grignoterai pour devenir réalisateur. » Ou est-ce que c'est vraiment des vocations de gens qui veulent, d'ailleurs ce sont des métiers magnifiques, qui veulent faire de l'image? On voit qu'il y a plus de gens qui veulent faire de l'image que du son, ce qui est normal, parce que l'image c'est plus palpable, disons, je dis ça à la radio, je m'aventure un peu. Mais voilà, est-ce qu'il y a pas un peu de ça? Carole Desbarres aussi a sans doute...
Bien sûr, ça peut exister. On appelle ça les sous-marins dans notre petit langage de la maison. En même temps, c'est un phénomène qui est assez limité, parce que notre concours est tout entier construit pour le repérer. Non pas du tout dans un esprit d'ailleurs de mettre les gens à leur place, mais tout simplement parce que notre formation, je le disais tout à l'heure, elle est vraiment égale pour tous les départements. Et ils vont connaître, une fois rentrés dans l'école, pendant 4 années, mis à part la première année, on y reviendra peut-être, qui est une année de tronc commun, ensuite une formation spécifique à cette place-là. Donc il n'est pas question qu'on admette dans le département son quelqu'un qui n'a aucun qu'une relation particulière avec le son, alors qu'il va faire réellement, pendant ses deuxième, troisième années, puis enfin dans son année de fin d'études, un travail spécifiquement sonore. Donc tout notre concours est ainsi fait que dès la deuxième partie, Carole vous exposait là la première partie, mais dès la deuxième partie, il y a des épreuves spécifiques par département, où un certain nombre de connaissances de base sont testées, mais aussi plus généralement une sensibilité au domaine dans lequel le candidat veut ensuite faire ses études. Et puis c'est encore vérifié au niveau de la troisième partie avec l'entretien. Donc en fait, il faut bien le dire ainsi, et là aussi je pense encore à d'éventuels candidats qui nous écouteraient, on n'a pas grande chance de passer l'épreuve du concours avec cette attitude de contrebande. Ce que je veux ajouter en complément de votre question, parce qu'il me semble qu'il y a une deuxième question en dessous, c'est que, ceci étant, l'école s'applique à enseigner le cinéma, et que il peut y avoir des élèves, pour reprendre votre exemple, du son ou de l'image ou d'autres départements, qui ont une vraie, qui sont dirigés vers ce domaine-là, et qui, en même temps, ont en eux une velléité ou une volonté de réalisation, et ils vont la mettre à l'épreuve à l'école, en première année, je le disais, mais à d'autres moments de la scolarité. Et nous n'interdisons pas que des élèves, pendant leur scolarité et après, explorent ces deux branches. Et parmi les gens que vous avez cités, il y a un certain nombre d'anciens élèves qui ont été dans certains départements et qui ont été aussi, finalement, des réalisateurs. Laetitia Masson, par exemple, pour parler de celle qui a fait pas mal de films, a étudié dans le département images. Et je crois sincèrement, il se trouve que je voyais récemment son film de fin d'études, qui est un film d'images, qui reproduit, enfin, qui essaye de travailler sur des images de peinture, de lumière, d'impressionnisme, Caravage, Vermeer, etc. On voit dans ce travail de fin d'études qu'elle avait fait avec Caroline Champetier, qu'elle travaille l'image. Et puis, Laetitia Masson est devenue réalisatrice. Donc voilà, on n'interdit pas pour autant, mais la contrebande, ça marche pas.
Alors, Carole Desbarras, bon, vous n'avez pas, comme le disait Marc-Nicolas, de classe préparatoire, comme le lycée Voltaire l'était pour l'IDEC, mais néanmoins, je suppose que les candidats qui se présentent chez vous n'ignorent pas la difficulté, par exemple, de l'analyse de films, et qu'ils ont pu se préparer à cela, non pas formellement dans une classe préparatoire, mais dans des départements de cinéma qui existent dans des grandes universités de Paris et de province.
Il y a des candidats, beaucoup d'ailleurs, qui viennent d'universités de cinéma. Donc effectivement, ils ont pratiqué l'analyse de films. Mais nous avons également des candidats qui viennent de milieux très divers, qui viennent d'écoles, par exemple, de commerce, en production, qui parfois sont architectes des PLG pour le département des corps. Ceux-là n'ont pas forcément fait d'analyse de films, et ce n'est pas pour autant qu'ils vont avoir de mauvaises notes au niveau du concours et de l'exercice d'analyse de films.
Ça veut dire que l'enseignement d'analyse de films ne sert pas à grand-chose?
Non, pas du tout. Je l'ai moi-même enseigné, vous le savez très bien, à l'université. Donc, je le revendique. Non, je pense que parfois, il y a une personnalité qui peut arriver à poindre tout en ne connaissant pas les codes de l'université. Et d'autres fois, ça se produit également avec les codes de l'université. Donc, il n'y a pas de loi générale. Mais on s'est même aperçu de quelque chose d'assez étonnant, qui est que parfois, quelqu'un qui n'a pas vu un film arrive à en parler très bien. On se rend compte qu'il n'a pas vu parce que dans la copie, cela apparaît. Mais il y a donc la façon dont une personnalité reçoit un extrait de film qui compte avant tout. On le dit au candidat, on le dit également au correcteur. On rappelle au correcteur que ça n'est pas une épreuve qui doit avoir comme paramètre des connaissances universitaires extrêmement avérées. La culture est un plus, en revanche. Ça, c'est bien accueilli.
Alors évidemment, il y a un grand filtre, puisque sur 1105 inscrits au concours de 2005, j'ai les chiffres de 2005, il y en a 183 qui sont reçus. Il y a vraiment un premier écrémage considérable. Et puis ensuite, sur cela, il y a encore presque un tiers plus d'un tiers qui vont être admis après la deuxième épreuve, qui est l'épreuve, ce que vous appelez l'épreuve départementale, c'est-à-dire la spécialisation.
Tout à fait. Et ces épreuves sont, comme le disait Marc-Nicolas, des épreuves qui, là, vont cibler davantage la sensibilité du candidat au département auquel il se destine et dont je vais redire qu'il n'est pas question d'en changer. Si on est rentré en son dans l'école, on sortira du département son, peut-être avec une âme de réalisateur, mais enfin en tout cas du département son. Et il y a à la fois des professionnels qui viennent de l'extérieur nous aider à faire passer ce concours, mais également des personnes de l'intérieur de l'école qui, à ce niveau-là, peuvent travailler justement sur cette série d'épreuves qui est très 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 lourde et très longue à mettre en place.
Alors je suppose, Marc Nicolas, que pour la troisième partie qui est l'épreuve orale, et alors là où il y a encore, on en prend encore la moitié des 76, il y en a 37, c'est-à-dire c'est vraiment les candidats admis, c'est la promotion, 37 personnes, vous avez le même jury. C'est pas les mêmes correcteurs pour les 1105 copies.
Non, non.
Mais par contre, pour l'épreuve orale, et comment est constitué comment vous constituez un jury?
Alors ça, c'est une alchimie complexe, hein, à laquelle nous consacrons du temps. Le jury est donc fait de 7 personnes. Nous parlons là du cursus principal, hein, puisqu'en fait, nous avons aujourd'hui 3 concours avec 3 jurys finaux distincts. Mais si on parle de celui où les élèves sont plus nombreux, nous avons 7 personnes qui représentent les 7 départements de ce cursus principal. Donc il y a un réalisateur, un opérateur, un ingénieur du son, etc. Et chaque année, je m'efforce de composer un ensemble qui représente à la fois le spectre du cinéma tel qu'on le pratique en France, de manière à ce que le jury soit, qu'il y a toutes les sensibilités, et en respectant aussi des différences d'âge, de génération plus exactement, de goût de cinéma, pour que les candidats aient face à eux un ensemble de personnes qui, puisque par leurs questions, puisque en fait il s'agit d'un entretien de 3 quarts d'heure, apprécier sous tous les angles ce qui fait leur motivation à rentrer dans cette école, ce qui fait leur rapport au cinéma, et cet équilibre est extrêmement important. Je crois qu'on le réussit chaque année. C'est pas facile parce que, vous le disiez à l'instant, c'est le même jury, donc il siège pendant 15 jours d'affilée, du matin au soir.
Oui, c'est presque comme un juge, être jury à un cours d'essai.
Ah oui, ça veut dire qu'on s'enferme, c'est une sorte de petit vaisseau spatial qui décolle pendant 15 jours, et de 9h du matin à 18h, ils sont là et ils reçoivent cette année 80 étaient admis en dernière partie, donc c'est un travail considérable, très passionnant d'ailleurs, et tous les ans, les jurés nous disent, au bout de quelques jours, combien ils se constituent une petite communauté très solidaire, et qui ne se vit pas du tout d'ailleurs comme étant là pour éliminer des gens, mais plutôt pour repérer, pour s'entretenir avec d'abord des gens, savoir qui ils sont, quel est leur désir de cinéma, et à la fin, composer la promotion. Alors composer la promotion, c'est une affaire compliquée, mais c'est aussi un enrichissement de pouvoir se dire, ce sont les mêmes qui choisissent, des producteurs, des ingénieurs du son, des décorateurs, des scénaristes, et qui essayent de faire groupe ensuite. Alors, il ne faut pas qu'ils soient tous pareils, et on leur donne des consignes, au contraire, d'écarter. Je crois que c'est ça qu'il faut dire sur notre concours pour terminer. Pourquoi nous n'avons pas de prépa? Encore qu'il y en ait une à Nantes. Hein. Elle n'est pas officielle, elle n'est pas alimentée par nous. Nous ne la considérons pas plus que les autres formations. Mais pourquoi nous n'avons pas de prépa ni de programme? C'est parce que ce que nous voulons, c'est des personnalités de tous les horizons, qu'il n'y ait pas un profil FEMIS pour rentrer à la FEMIS. Et si je dois vous parler de la promo qui vient de rentrer la semaine dernière, on a des élèves qui ont 20 ans parmi les plus jeunes, ce qui est très jeune. On a une élève qui a 30 ans. On a des Parisiens, des provinciaux, Carole le disait à l'instant, des élèves de école de commerce, de cinéma, de philosophie, de physique, de partout. Je crois aussi, et on y est attentif, de toutes les catégories sociales. Enfin,
voilà, ça c'est un sujet important que vous soulevez, parce que on a constaté, on a fait de plus en plus d'études sur les grandes écoles, c'est que le recrutement est de moins en moins ouvert sur les catégories sociales. Que à Normale Sup, il y avait encore des fils d'employés, des fils d'ouvriers, des fils de paysans qui rentraient à Normale Sup. C'est resserré. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse, Carole Desbarras.
Ils ne sont pas majoritaires, c'est vrai, on a le temps de le dire, mais ils sont présents, effectivement, ils sont présents. Ça se voit dans les films. Lorsque quelqu'un comme Raphaël Jacoulot fait un film chez lui, c'est un film dans la montagne. Lorsque quelqu'un comme Samuel Collardet parle de ce qu'il connaît, c'est d'une région précise de moyenne montagne, avec ce que c'est que l'apprentissage, ce que c'est que l'agriculture. Donc ils apportent avec eux cette richesse. C'est-à-dire qu'ils vont se trouver à côté d'autres élèves qui soit viennent de pays étrangers, parce que heureusement nous avons aussi des élèves étrangers de la communauté européenne d'une part et d'autre part de différents continents. Cette année, un Japonais est rentré. Eh bien, c'est cette friction entre les différentes cultures qui peut ouvrir l'horizon des élèves de l'école. Ça y contribue beaucoup.
Mais peut-être, pour rajouter un mot, parce que c'est un point vraiment très important, vous le disiez, on n'est pas, nous, dans ce mouvement que vous décrivez d'un resserrement du recrutement social. Et je crois que la raison, elle est aussi là. Elle est aussi dans le fait que nous ne cherchions pas, à travers ce concours, les meilleurs élèves. pour le dire d'un mot. Voilà, les meilleurs élèves qui rentrent à l'école, parce que je crois qu'ils ont quand même tous de grandes qualités, ce ne sont pas nécessairement eux qui ont eu un parcours scolaire des plus classiques et des plus traditionnels. Et puis, je le disais récemment encore, on a peut-être une chance aussi dans notre domaine, c'est que le cinéma, personne ne l'ignore. Alors, il n'est pas à l'horizon de toutes les consciences, parce que je pense que dans certaines catégories sociales, et quand on habite loin, etc., j'ai moi-même connu d'ailleurs cette distance-là, on n'est pas familier de petit monde du cinéma, qui est surtout parisien, etc. En revanche, on est familier du cinéma. On peut l'être en étant loin des milieux dans lesquels on le fait. Et ça, je crois que c'est un moteur puissant pour que des jeunes, en permanence, se disent « Et moi ? Et si le cinéma, c'était pour moi ?»
Carole Desbarras, vous disiez qu'il y a des Européens, mais moi ce qui me frappe tout de même, c'est que, et je crois que c'est tout à fait normal, que la majorité parmi les 25 inscrits par exemple au concours international, il y a des Algériens, des Chinois, des Colombiens, des Coréens, des Américains, des Israéliens, des Japonais, des Marocains, des Mexicains, des Péruviens, des Tunisiens, des Turcs, mais pas d'Européens, parce que les Européens, ils ont leur école. Je veux dire, c'est un peu peut-être normal que les Tchèques, ils ont la FAMU à Prague.
Non, c'est un artefact, Michel, parce que c'est en fait... Parce que les Européens passent le même concours que les Français.
Ah,
ça explique. Et donc nous avons, voilà, il faudrait rajouter
voilà
à la liste que vous nous dites,
alors,
des Italiens, des Espagnols, des Belges, des Anglais.
Ah, donc l'Europe est alors est faite totalement à la FEMIS.
Absolument, c'est le
c'est
même
le seul endroit, c'est le seul endroit de France où l'Europe est, il n'y a pas eu de nom à l'Europe à la FEMIS du tout. C'est à 100% la majorité.
Depuis 10 ans, c'est le même concours.
Voilà.
Et alors, nous avons dans l'école aujourd'hui un Espagnol.
Une anglaise.
Non, moi je pensais que je pensais d'après la documentation que effectivement, je me disais tiens, il y a le FGIC à Moscou, il y a la FAMU à Prague, il y a le Łódź en Pologne, il y a la London Film School à Londres, il y a l'INSA à Bruxelles. Donc les Européens, ils sont largement pourvus, ils viennent pas travailler en France, non, mais ils viennent. Mmh. Alors là vraiment bravo d'attirer tous ces Européens, oui, avec les grandes écoles qui existent dans les pays. Alors maintenant on peut parler pas trop longuement parce que l'émission est longue. Mais malgré tout, on a beaucoup de choses à discuter. Alors, une fois qu'ils sont entrés, donc il y a à ce moment-là les 4 années d'études pour les 7 grands départements.
Écoutez, on peut le dire relativement rapidement en fait. La première année est un tronc commun. L'idée, c'est que chaque élève passe à tous les postes et que, indifféremment, il fasse du son, de l'image, de la réalisation, qu'il soit script, qu'il soit machinaux, c'est-à-dire qu'il puisse toucher à tous les métiers qu'il ne fera pas, de manière à avoir des éléments de dialogue avec toutes les autres personnes qui composent une équipe de cinéma. Donc c'est cette idée de travail collectif qui est mise en avant et cette idée de rotation. Alors c'est une alternance entre des exercices pratiques, des visionnements de films bien sûr et de l'analyse, mais aussi des questions de culture, mais aussi des rencontres avec des professionnels. La deuxième année, les voies se séparaient, c'est-à-dire qu'ils rentrent chacun dans leur département et ils ont chacun leur enseignement spécifique. Vous imaginez bien qu'on ne va pas mettre un réalisateur à un cours d'acoustique ou un cours de sensitométrie. Il a besoin de notions, mais uniquement de notions, là où nos élèves ont besoin d'éléments beaucoup plus construits et élaborés. Et la deuxième et la troisième année sont construits dans une alternance entre le moment où ils sont dans leur département, ils apprennent ce dont ils ont besoin pour exercer leur métier, et le moment où ils apprennent cette chose essentielle qui est de travailler ensemble à l'œuvre collective qui est un film, où ils se retrouvent par équipe, mais là, à la différence de la première année, chacun est à son poste. Donc, une fois qu'ils ont fait des exercices ou des films, il y a de tout, hein, des choses qui sont abouties, des gestes que l'on leur demande dans la rapidité, et des films en 35 mm qui demandent beaucoup plus de temps de réalisation. Il y a pour eux un troisième temps qui est minoritaire, si vous voulez, en durée horaire, mais qui compte beaucoup pour nous, qui est un temps de culture générale dans lequel soit ils rencontrent un philosophe, soit ils ont un séminaire sur un sujet général, soit ils ont le fait de voir des films qui leur sont présentés par des professionnels. Donc, si vous voulez, cette alternance entre le cours spécifique, le travail en équipe autour de production et le temps de culture est ce qui construit la deuxième et la troisième année. Quant à la quatrième année, pardon, elle est constituée du travail de fin d'études où chaque élève doit faire 2 choses, sauf les réalisateurs d'une certaine manière, c'est-à-dire que chaque élève doit travailler sur un travail de fin d'études d'un réalisateur pour constituer son équipe, mais par ailleurs, et c'est au moins aussi important, si ça n'est pas plus, il travaille son propre travail de fin d'études, sa propre recherche personnelle en images, en son, et cela peut donner des réalisations de films. Ça n'est pas du tout une obligation, mais parfois, et même souvent, les élèves s'en emparent.
Alors, ce que disait Carole Desbarras, Marc Nicolas, est important parce que cette part donnée à la culture, moi, c'est une chose qui me préoccupe, c'est-à-dire l'intérêt des cinéastes, des futurs cinéastes ou des chefs opérateurs, etc. Mais je pense peut-être plus aux réalisateurs pour la peinture, pour la musique, pour la littérature, pour la philosophie, pour la politique, etc. Ce qui me frappe, et ça vaut autant d'ailleurs pour la critique que pour les créateurs, c'est qu'il semblerait qu'aujourd'hui, par rapport à il y a 60 ans ou 70 ans, le cinéma soit autosuffisant. C'est-à-dire que les cinéastes comme Eisenstein, comme Orson Welles, comme Renoir, comme Mizoguchi, comme Visconti, enfin tous les grands cinéastes du passé, jusqu'à René et Godard d'ailleurs, le cinéma était considéré comme un art secondaire. C'est un art, bon, et y consacrer tout son temps était une chose aberrante. C'est-à-dire c'était incompréhensible parce que il fallait aller voir des expositions de peinture, écouter de la musique, et donc ils avaient une culture immense qui se reflète d'ailleurs dans leurs œuvres, qui ont des dimensions à 25 niveaux. Aujourd'hui, le cinéma envahit tout, il est présent partout, il est ne serait-ce qu'à travers la télévision, c'est-à-dire qu'il y a un flot d'images, et le cinéma peut paraître pour les futurs cinéastes comme, effectivement, comme suffisant à lui-même. On n'a pas besoin d'aller ailleurs. Et c'est vrai, ce qui frappe beaucoup, c'est, et dans la critique la même chose d'ailleurs, c'est de voir qu'on a une culture, alors c'est des gens qui connaissent absolument tout admirablement de tous les détails de la production de Hong Kong, ou d'autres connaîtront parfaitement le cinéma gore, ou d'autres auront même une culture cinématographique plus large et englobant toutes les formes de cinéma, mais avec souvent peu d'ouverture sur le reste. Est-ce que vous voyez cela chez les étudiants, et est-ce que c'est ce qui est fait à la FMI suffit à y remédier?
Alors d'abord, c'est une préoccupation majeure. Je dois vous dire que la semaine dernière, nous accueillons les nouveaux élèves, et dès la première séance d'ouverture, je leur ai dit ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, je leur ai dit, petit 1, et c'était un peu paradoxal, il n'y a pas que le cinéma dans la vie. Il y a la vie. Et petit 2, il n'y a pas que le cinéma dans les arts. Et donc, pendant que vous êtes ici, continuez à vous préoccuper du monde, continuez à vous préoccuper des autres arts, et pendant que vous ferez des films, continuez à voir les films des autres. Donc cette préoccupation, elle est bien nôtre. Bon, pour revenir à ce que vous disiez, je pense qu'il y a des explications historiques aussi. La modernité, ça a été ça, finalement. Le cinéma moderne, c'est le cinéma qui fait retour sur le cinéma, et il a fallu attendre que le cinéma ait 60 ans à peu près pour que dans le monde entier ça se produise. Donc il y a ces pièges de la société contemporaine, il y a le piège aussi de la fragmentation des savoirs et des cultures qui affecte, alors là, pas seulement les cinéastes mais le monde entier. Enfin, ce que vous dites, on pourrait le dire des savants. Au début du 20e, on avait des scientifiques qui maîtrisaient plusieurs sciences en même temps. Donc tout ça, on y est exposé. Alors, dans l'école qu'en faire? D'abord, on le disait à l'instant, le retour sur l'histoire du cinéma est d'une manière qui ne soit pas académique, qui ne soit pas justement seulement pour la connaissance du cinéma pour lui-même, mais au contraire à travers l'exploration des modes de création des films de ces différentes périodes. Il est bel et bien présent, parce que ce que nous appelons analyse de film dans l'école, en fait, c'est ça, c'est une analyse du point de vue du processus de la création des œuvres, et pas seulement de leur analyse de l'histoire. Et puis ensuite, il y a, Carole Desbarras le disait à l'instant, certains enseignements qui sont minoritaires, mais qui comptent, qui nous permettent ces ouvertures-là. On a dans certains départements, en matière d'histoire de l'art, des approches construites. Hein, c'est le cas dans deux départements aujourd'hui. Et nous sommes tous les deux, et nous sommes d'ailleurs parmi les plus volontaires dans l'école tous les deux, déterminés à faire augmenter cette part de ces enseignements, avec le conflit habituel qu'on connaît dans toute école, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire la pondération des éléments respectifs. Alors, dans la FMI, ça se dit ainsi, c'est que comme la FMI, ça a délibérément, on va en reparler, je pense, une orientation qui est vers le faire des films, on doit se bagarrer un petit peu de temps en temps pour ne pas oublier, justement, ces enseignements qui sont un peu plus loin du faire des films, mais qui sont déterminants. Et puis, par ailleurs, il y a la vie des élèves tout court. C'est-à-dire le fait qu'ils puissent continuer à vivre une vraie vie, parce qu'on n'écrit pas des scénarios, on ne fait pas des films sans avoir soi-même une expérience de vie qui nourrisse le cinéma qu'on va faire. Ça va de soi.
Carole Desbarres.
Mais c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, il y a, disons, 5-6 ans, qu'on éprouvait une vraie difficulté face à l'hétérogénéité de la culture des élèves. Ils sont toujours cultivés, ça c'est évident, mais en revanche, ils sont cultivés de manière disparate et il n'y avait plus, voilà, et parcellaire. Donc ils ont une fétichisation, par exemple, de tel ou tel domaine du cinéma, ce que vous citiez, ça peut être le gore, ça peut être Dreyer pour certains d'entre eux, ou bien ça peut être Renoir, ou ça peut être la science-fiction italienne, peu importe. Et l'idée, ça a été, mais comment allons-nous faire pour essayer de donner une vision d'ensemble, de faire rencontrer les grands fondamentaux, parce que c'est un vrai bonheur de découvrir un film d'Olivera ou de découvrir un film de Chaplin, ça compte parmi les choses les plus importantes qui soient. Et donc, nous avons essayé différentes stratégies. Il a fallu, c'est ce que disait Marc, il a fallu gagner du terrain sur les programmes déjà faits, c'est-à-dire dire, il est important pour former un ingénieur du son ou un réalisateur que cet élève soit au contact de la pensée pendant le courant de ses études. Donc, depuis 3 ans, nous invitons un philosophe en résidence. C'est très petit pour l'instant, c'est 4 conférences, mais c'est quelque chose qui, au long de 4 mois, peut donner déjà le suivi d'une pensée. Nous essayons de faire que des films soient présentés par des cinéastes, de manière à ce que les élèves qui ont peut-être vu ce film le perçoivent différemment, que ça passe par le désir et non pas par l'histoire du cinéma depuis Lumière jusqu'à Lynch, parce que on n'y arriverait pas en temps. Et nous essayons aussi de mettre des ateliers de réflexion à l'intérieur de chaque département, pas que la réalisation, le scénario et la production, mais également des ateliers, je pense en son par exemple, au fait que Alexandre Delay, le peintre, est venu passer 3 jours avec les élèves l'an dernier et que ça semble avoir été un moment très important. Des séminaires aussi de réflexion. Hier, il y avait Rabah Meurzaïmech dans l'école qui était venu rencontrer toute une promotion autour de la question de comment fait-on pour filmer les banlieues. Donc on ouvre, si vous voulez, on essaie d'ouvrir les fenêtres.
Marc-Nicolas, ce qui est remarquable, c'est l'alliance finalement de 3 domaines qui sont l'économique, le technique et l'esthétique. Et justement, l'économique aurait pu être sacrifié. Et là, vous avez dit au début de cette émission que vous avez ouvert sur une section distribution, une section production. C'est-à-dire qu'on forme aussi, et donc maintenant, il y a des directeurs de salle qui sortent de la FEMIS, et qu'ils sont en contact avec les autres étudiants, je suppose.
Bien sûr. Si vous voulez, ce projet qui est maintenant rentré en œuvre et avec succès, c'était ce que vous dites, c'était à la fois de se dire que les futurs commerçants du cinéma, il était bon qu'ils soient formés dans une école de cinéma et qu'ils aient eu des expériences directes même de ce que c'est que le cinéma. Donc c'est pour ça que les 3 premiers mois, ils les passent avec tous les autres élèves à faire des petits films, alors qu'ils seront pas des œuvres impérissables, mais ils auront été confrontés à ce que c'est qu'un comédien, ce que c'est qu'écrire une petite histoire, monter 2 plans, enfin, des choses vraiment très essentielles, et qui n'oublieront pas de sitôt, je pense, hein. Même 3 mois peuvent suffire. Donc il y avait cette idée-là, former au plus près de la création les futurs commerçants du film. Et puis dans l'autre sens, aussi que à travers eux, la problématique de que deviennent les films une fois faits, ou parfois même au moment où on les écrit, c'est-à-dire le spectateur, c'est-à-dire cette circulation compliquée des films aujourd'hui, elle puisse être prise en compte par les autres élèves. Et je pense qu'on verra, dans les années qui viennent... Je dis souvent que dans 20 ans, on aura peut-être une 150 distributeurs et exploitants de cinéma qui seront amis avec des scénaristes, avec des réalisateurs, avec des ingénieurs du son, avec des décorateurs, des monteurs, et que ça, ce sont des effets de très long terme dans une profession qui, je pense, peuvent être bénéfiques pour tous.
Alors, Carole Desbarres, ce qui frappe aussi, c'est l'énorme importance accordée à la pratique. C'est-à-dire que, contrairement à des anciennes écoles, il y a très longtemps, où il y avait très très peu de pratiques, il y avait beaucoup d'enseignements théoriques, etc. Ce qui n'était peut-être pas mal non plus d'avoir beaucoup d'enseignements théoriques, mais aujourd'hui, vous avez même alors un équipement très important, vous avez des crédits pour ça.
Oui, bien sûr, mais il faut bien voir que cette pratique est toujours accompagnée de théorie. C'est-à-dire que les cours de théorie ne sont pas séparés, théorie d'abord, pratique ensuite, mais que, comme nous avons la chance d'avoir des intervenants professionnels qui acceptent de jouer le jeu de la transmission et donc de l'individualisation d'un enseignement, c'est des tout petits groupes chez nous, par exemple 6 élèves, vous avez la possibilité, si vous êtes à 2 professionnels, de faire passer des choses extrêmement précises, eh bien la théorie passe à travers le travail qui est en train de faire ce groupe d'élèves. Donc ça n'est pas quelque chose qui est absent, simplement c'est géré différemment. Il y a donc cette pratique théorisée, et bien sûr nous avons, c'est ce que vous disiez, un équipement assez important, c'est vrai, que nous essayons de tenir en veille, et notre directeur technique est là pour nous aider à penser avec tous les directeurs de département qui sont des professionnels en activité, comment allons-nous évoluer? Comment avons-nous évolué sur le numérique à l'aube des années 2000? Comment allons-nous évoluer sur la HD bientôt? C'est-à-dire, comment pouvons-nous investir ce qui est de l'ordre de la subvention de l'État fléchée vers les achats de matériel, de manière à être à la fois en osmose avec la pratique professionnelle et en même temps avec une durabilité, une façon de garder notre équipement, parce que ça coûte quand même extrêmement cher, et donc il faut alterner entre l'achat d'une console numérique, qu'on fait une fois tous les 15 ans, et le fait d'acheter des toutes petites caméras, de manière à ce que le plus d'élèves possible puissent avoir accès à un matériel très léger. Donc on couvre toute la gamme au niveau du matériel, du plus sophistiqué au pas basique quand même, parce que c'est les professionnels que nous formons. Nous sommes une école d'art, mais aussi une école professionnelle et technique. Donc, mais quand même une base relativement ouverte pour que l'accès au matériel ne soit pas fétichisé et que toujours, toujours la technique soit au service du film.
Marc-Nicolas, alors si on regarde la programmation de la Cinémathèque française, qui a montré 20 films de 20... élèves issus de la FEMIS, devenus connus ou moins connus, mais en tout cas les gens qui comptent, il y avait 12 femmes et 8 hommes, alors qu'au contraire, si on regarde les statistiques de la FEMIS, il y a 68% d'hommes et 32% de femmes. Alors, est-ce que ça veut dire que les femmes sont plus performantes, c'est-à-dire qu'elles arrivent finalement à se faire davantage connaître, puisqu'elles sont beaucoup moins nombreuses et sont beaucoup plus représentées dans une sélection?
Non, vous savez ce que ça veut dire?
Très, très bonne sélection d'ailleurs de la Cinémathèque française.
Ça veut dire qu'on est en deçà de ce que les statisticiens appellent un échantillon représentatif. Sérieusement, c'est ça la réalité. À l'école, en fait, aujourd'hui, le partage est celui que vous indiquez, c'est à peu près 60-40, en année de croisière, si je puis dire. Pourquoi ce n'est pas 50-50? C'est parce que il y a encore des départements, comme le département son que vous citiez tout à l'heure, qui ont une dominante masculine. Je m'empresse de dire d'ailleurs qu'en 2006, la promo qui est rentrée la semaine dernière, ce n'est plus vrai. Sur les 6, il y a 3 filles. Donc, mais dans le département image qui s'est féminisé depuis déjà une vingtaine d'années au moins.
Avec beaucoup de
par
grandes,
contre,
de
cette année, sur les 6 élèves, il n'y a qu'une seule fille.
Ah bon?
Donc, mais voyez, ça, c'est pour ça que je dis qu'on est en deçà du statistiquement représentatif. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que aujourd'hui, la parité règne dans l'école. Il y a une autre exception dans l'autre sens que vous connaissez également, qui est celle des scripts. Les 4 élèves reçus cette année sont 4 filles et il en va ainsi déjà depuis plusieurs années. Bon, c'est un tropisme très ancien français d'ailleurs, puisque vous le savez, dans d'autres pays c'est le contraire. En Grande-Bretagne par exemple, c'est quasi exclusivement des hommes qui assurent ce métier. Bon, mais ça c'est des choses qui se réduisent avec le temps et on est dans une parité en fait.
Alors si on regarde, Carole Desbarra, les formations possibles de cinéastes, il y a eu au moment de la nouvelle vague une assez forte opposition entre d'une part les gens strictement de la nouvelle vague, ce qu'on appelle la nouvelle vague, c'est-à-dire Romère, Rivette, Godard, Chabrol, etc., issus des cahiers du cinéma, qui avaient acquis leur connaissance du cinéma par la Cinémathèque française. Et puis, au contraire, il y avait les cinéastes sortis de l'IDEC, c'est-à-dire Rennais, Sautet, Rapneau, Louis Malle, Cavalier, qui étaient un peu ostracisés, enfin, à part Rennais, qui était un peu toujours privilégié, enfin, bon, un peu ostracisés comme étant des cinéastes académiques, etc. Donc, il y a eu un peu ce clivage dont on continue à subir les séquelles, malheureusement, dans la critique française aujourd'hui. C'est amusant puisque aujourd'hui beaucoup d'enseignants qui sont passés par la FEMIS sont des anciens des cahiers du cinéma. Donc il y a un peu, alors que c'était un peu l'inverse. Avant, il y avait une guerre menée contre les écoles de cinéma. Alors est-ce que vous croyez que ça continue?
Vous voulez dire la guerre?
C'est le triomphe de l'école dans le cinéma français aujourd'hui. C'est le triomphe, disons, de la tendance non critique. Et je ne regrette pas, hein, c'est pas du tout un regret de ma part, c'est une constatation, c'est-à-dire que l'école a acquis maintenant une supériorité écrasante par rapport à accéder au cinéma par le biais de la critique.
Alors, je ne sais pas dans les grandes masses. Moi, ce que je vois, c'est que la profession a changé, que l'assistanat, l'apprentissage sur le tas est beaucoup plus difficile. Et que c'est vrai que, de plus en plus, et pas uniquement en France, c'est quelque chose que nous constatons, Marc et moi, quand nous allons dans des congrès internationaux d'écoles de cinéma, il y a une évolution et on se rend compte que les écoles prennent plus de place qu'elle n'en avait auparavant. Donc là, nous nous inscrivons dans un mouvement qui est vraiment très très large, quoi. Il y a dans la modification par le numérique, la modification des professions fait que le relais passe moins bien de personne à personne et du coup, l'école prend une place différente. Donc, le fait que nous soyons assez représentés, c'est vrai. Je dois dire que nos techniciens, les élèves en images, en son, sont présents dans beaucoup de génériques de films extrêmement différents sur les écrans actuellement. C'est vrai que la critique n'a pas grand-chose à voir là-dedans, ça c'est sûr.
Marc, voilà, pour terminer, j'ai une dernière question. Ce qui me frappe aujourd'hui dans les 20 ans de la FEMIS et cette génération, et je répète que c'est des gens que j'aime beaucoup, que j'admire, beaucoup d'entre eux, depuis Emmanuel Vercot jusqu'à Orso Miret, François Ozon, Émilie Deleuze, etc., Noémie Lvovsky, Emmanuel Mouret, etc., enfin qui étaient présents dans cette programmation de la Cinémathèque, c'est que, à part François Ozon et les sentiments de Noémie Lvovsky, ils n'ont pas pénétrer le grand public. C'est-à-dire que c'est tout de même des gens d'une grande qualité professionnelle, artistique, intellectuelle, mais contrairement à la génération précédente du cinéma français, je pense à Tavernier, je pense à Claude Miller, je pense à Alain Corneau, à Patrice Lecomte, etc., à André Téchiné, qui ont atteint le très grand public, des centaines de milliers de spectateurs, et la génération précédente que j'ai citée, les Rapneau, les Cavaliers, les Sautet, les Romère, etc., on a tout de même, en dehors de Ozon, encore une fois, qui est un peu un phénomène, qui a atteint le vrai public, on a tout de même un cinéma qu'on pourrait qualifier d'art et d'essai français, ce qui s'explique pour un film iranien ou coréen, mais qui est un peu dommageable pour le cinéma. Alors, d'où ça vient? Ça n'a pour vous aucun rapport avec l'enseignement? D'où vient ce tropisme vers un repli sur soi?
Je crois que l'explication principale, elle est effectivement pas dans l'école, elle est dans le cinéma français. C'est-à-dire que le cinéma français, si nous comparons, pour reprendre vos références, à ce qu'il était il y a 30 ans, il a subi des modifications, mais radicales dans son organisation, dans son financement. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que un certain cinéma que je vais qualifier d'intermédiaire, ce mot est affreux, mais je parle sur le plan économique. Hein, il est évidemment pas intermédiaire sur le plan artistique. Hein, pris entre un cinéma très exigeant qui d'emblée s'adresse à un public limité, et d'autre part un cinéma commercial qui d'emblée vise le million, l'unité de compte étant le million, ce cinéma-là, dans l'économie contemporaine du cinéma, il a quelques difficultés à être, et son mode d'existence n'est pas tourné vers ce vers quoi était tourné son équivalent il y a 30 ans. Pardon de mes phrases un peu complexes, mais tout ce qui s'est passé depuis 30 ans et que vous connaissez, pour le dire simplement, il y a 30 ans, un film était entièrement financé par la salle de cinéma, 100%. Et son exploitation durait 6 mois. Aujourd'hui, un film est financé majoritairement par la télévision, et son exploitation dure quelques semaines, voire quelques jours. Ce qui s'est passé pendant ces 30 ans-là a totalement bouleversé la dispersion, disons, des créations. Les films de nos anciens élèves sont pris dans ce mouvement, avec tout ce que ça veut dire de compliqué, et je pense qu'il y en a quand même qui sont, comme vous le disiez, dans cette position, et que c'est en train de venir, parce que le dernier mot, c'est peut-être de rappeler que l'école a 20 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que seulement 16 promotions ont été diplômées, 17 plus exactement, et que nos plus vieux anciens élèves ont à peine 45 ans. C'est-à-dire qu'ils sont ce qu'on appelle ailleurs des jeunes cinéastes.
Merci beaucoup, Marc-Nicolas. En vous entendant, je pensais que vous étiez un ancien du CNC et que vous avez donné une analyse là qui n'est plus tout à fait celle du directeur de la FEMIS, mais du spécialiste de l'économie et des changements du cinéma français. Donc, merci beaucoup, Marc-Nicolas, directeur de la FEMIS, Carole Desbarat, directrice des études, de nous avoir parlé en détail de cette école très importante qu'est la FEMIS, avec l'école Louis Lumière, il faut pas l'oublier, l'autre grande école plus technique qui existe en France. C'était Projection Privée, une émission de Michel Simon que vous pouvez retrouver pendant une semaine sur le site franceculture.com. Elle était réalisée par Jean-Michel Coquille et Pierrette Perronneau. Et dans quelques instants, jeu d'archives d'Antoine Perrault.